autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour passer de l'autre côté du miroir aujourd'hui, pour entrouvrir la boîte noire et pénétrer dans les rouages de ces machines algorithmiques qui nous gouvernent, nous modélisent et nous calculent. Mais jusqu'où et surtout comment? Comment comprendre ce qui se joue réellement dans ce nouveau monde numérique qui est le nôtre? Pour pouvoir y naviguer en toute connaissance de cause, il nous faut un guide, ou plutôt une guide, la numéricienne Aurélie Jean, notre invitée en février dernier, à l'occasion de la sortie de son essai qui a fait date et remporté un grand succès, De l'autre côté de la machine, voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Comment cette plongée dans le virtuel nous permet de mieux comprendre le réel qui s'annonce et de faire la différence entre les vraies menaces, les fausses promesses et les véritables enjeux du numérique. Autour de la question comment les algorithmes nous calculent, bienvenue ensemble de l'autre côté du miroir numérique.
Base de données.
Innovation.
Traitement, algorithme.
Environnement.
Sécurité.
Pouvoir.
C'est régulation.
Big Brother.
Éthique.
Contrôle.
C'est débat.
Une fois qu'on a tout capturé, une fois qu'on a tout analysé, alors qu'est-ce qu'on fait de cette information?
Pourquoi l'informatique est-elle aussi puissante?
Bonjour Aurélie Jean.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour répondre à toutes ces questions, notamment à la toute dernière, à celle du professeur Gérard Berry sur l'hyperpuissance de l'informatique, en nous faisant passer, Aurélie, un peu à la manière d'Alice, de l'autre côté du miroir, au pays de ces algorithmes que vous connaissez si bien. Vous êtes numéricienne, je l'ai dit, docteur en sciences et entrepreneuse. Vous développez vous-même des algorithmes appliqués à de nombreuses disciplines, on y viendra. Formée à la fois en France, à la Sorbonne, à l'ENS et à Mines Paris Tech, mais aussi aux États-Unis, au prestigieux MIT, où vous menez toujours vos recherches et où vous enseignez l'algorithmie à vos...
Ah, je ne fais que enseigner en fait.
Vous ne faites qu'enseigner au MIT.
La recherche, je ne la fais pas avec le MIT, non.
En tout cas, vous y enseignez tout de même,
oui, hein, tout
au MIT.
Oui, tout à fait, j'enseigne un petit peu. Oui.
À vos heures perdues, j'ai envie de dire, parce que vous êtes également très impliquée dans la diversification et la féminisation des sciences et de la tech, dont vous voulez faire passer les enjeux à toutes et à tous, pour comprendre ce qui se cache, pour le meilleur comme pour le pire, derrière tous ces algorithmes qui bouleversent nos vies. Il faut d'abord, c'est très logique, s'intéresser à ces formidables outils mathématiques qui ne sont pas sortis, hein, vous le dites bien au tout début de votre livre, de l'autre côté de la machine. Ces algorithmes ne sont pas sortis un beau jour de la Silicon Valley, mais ils ont une histoire, pas virtuelle, mais bien réelle, Aurélie Jean.
Oui, Caroline, c'est très bien de le dire, parce que souvent on a tendance à oublier, et aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment resituer les choses dans les temps longs, et l'algorithmique en fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle des algorithmes, ce sont des algorithmes numériques qui sont destinés à tourner sur des ordinateurs, mais en réalité, l'algorithmique est une science bien plus ancienne, puisque le mot algorithmie vient du 9e siècle de notre ère, du nom du mathématicien perse Al-Khwarizmi. Mais même la discipline elle-même, qui est un processus logique de raisonnement et de résolution de problèmes, date même de 3 siècles avant notre ère, avec Euclide et son livre Les éléments.
Donc c'est loin, c'est long, c'est une histoire qui nous concerne, une histoire humaine, une histoire de science et une histoire au départ qui s'est développée grâce à des femmes extraordinaires. On pense à Ada Lovelace et puis...
Ah oui, dans le code, oui.
Et pour le code, et puis à l'amiral Grace Hopper.
Hopper,
qui était elle aussi au MIT, comme vous. Ouais, comme vous y avez été.
Comme j'y ai... Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, et merci de le souligner, parce que pour moi c'est très important, parce que étant aussi féministe, le code en fait a été développé vraiment... comme on le voit aujourd'hui, donc à la moitié du XXe siècle, et ce sont les femmes qui ont développé cette discipline et qui se sont appropriées cette discipline au XXe siècle. Voilà. Donc c'est important de le dire.
Sauf qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y en a, comme vous, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça, les femmes numériciennes, informaticiennes, religieuses.
Pas assez nombreuses, vous avez
pas
raison.
Pas assez nombreuses.
Tout à fait, vous avez entièrement raison.
Votre définition peut-être d'un algorithme, pour qu'on comprenne un peu où est-ce qu'on va mettre les pieds?
Alors un algorithme, c'est littéralement un processus de résolution d'un problème ou pour répondre à une question, c'est un ensemble d'opérations à exécuter selon une certaine logique, une certaine séquence pour justement résoudre un problème ou répondre à une question. Et encore une fois, l'algorithme aujourd'hui des numériques, c'est-à-dire qu'on va le coder, comme vous parliez de langage informatique, on va l'implémenter dans un code de calcul pour que ça puisse tourner sur l'ordinateur, mais traditionnellement, historiquement, l'algorithme est fait pour être résolu à la main.
Et oui, c'est ça, c'est un algorithme, c'est une manière de résoudre, un problème, où, quel qu'il soit et où qu'il se présente. C'est ça qui nous semble un peu affolant.
Exactement, et c'est vrai que, comme je dis souvent, vous pouvez l'expliquer de plein de manières différentes, ce qu'est un algorithme. Je pense que la meilleure manière de le comprendre, c'est d'en écrire un à la main, et du coup de comprendre au moins la logique derrière cette science, pour ensuite mieux comprendre, appréhender en fait, toutes les notions autour de l'algorithmique numérique, à savoir les machines, les techniques d'apprentissage, la calibration, des choses comme ça.
Donc pour soulever le capot, pour passer de l'autre côté de la machine, il faut soi-même écrire un algorithme. C'est possible quand on n'est pas mathématicien ou mathématicienne?
Bah écoutez, oui, parce qu'en fait, dans le livre, dans les premières pages, j'écris à la main le premier algorithme que j'ai écrit moi-même à la main à l'âge de 19 ans, où c'était un petit algorithme tout simple pour trier les nombres entiers d'un tableau. Et le lecteur peut le faire avec moi, en fait. Il le fait à mes côtés.
Vous préférez qu'on vous nomme numéricienne plutôt que informaticienne. Vous êtes mathématicienne au départ. Alors, pourquoi ?
Alors oui, j'aime bien différencier parce que c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas fait d'études. J'ai pas de diplôme de sciences informatiques. J'ai fait des sciences informatiques à partir de ma deuxième année, mais j'ai fait des études de physique, de mathématiques et ensuite de mécanique. Et c'est vrai que moi, j'ai tellement aimé les sciences informatiques qu'ensuite j'ai fait ce qu'on appelle des sciences numériques. Donc c'est-à-dire que j'ai appliqué en fait les sciences informatiques à des domaines de la physique, des mathématiques et entre autres de la mécanique des matériaux. Donc c'est vrai que moi, je dis numéricienne parce que en fait, ça vient de l'anglais, c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on parle de computer scientist pour parler d'informaticien et on parle de computational scientist pour parler de numéricien. Et ces deux choses, en fait, les gens font à peu près le même travail, quoique l'un va travailler sur des sujets appliqués. La personne en sciences informatiques peut être aussi amenée à travailler sur des sciences informatiques fondamentales. Donc voilà. Donc je dirais, c'est peut-être un biais de ma part dû à la définition de ma profession aux États-Unis.
Et parce que vous alternez entre Los Angeles où vous vivez, Paris, Boston ou MIT où vous allez retourner donner quelques cours. Autour de la question comment comprendre les algorithmes, justement pour mieux les apprivoiser. Nous allons maintenant faire appel à une autre formidable mathématicienne, numéricienne, informaticienne, la professeure Claire Mathieu, que vous connaissez, Aurélie Jean. Je propose d'écouter l'anecdote pas si anecdotique que ça, que Claire Mathieu a partagée au Collège de France, où elle était professeure invitée en 2018 sur la chaire informatique et sciences numériques, extrait de sa leçon inaugurale « Comprendre les algorithmes pour mieux les apprivoiser ».
Un ami à qui j'avais envoyé une invitation à assister à cette leçon inaugurale, après m'en avoir remercié et avoir exprimé ses regrets de ne pouvoir être présent aujourd'hui, a ajouté timidement en hésitant un peu. Mais n'y aurait-il pas une faute d'orthographe sur ce carton ? Une faute d'orthographe ? Après un instant d'inquiétude, j'ai compris la raison de sa question. Algorithme. Ce I ne devrait-il pas être un Y ? Eh bien non, je vous rassure, pas de faute d'orthographe dans l'invitation. Algorithme n'a rien à voir avec rythme. Algorithme ne vient pas du grec. Algorithme, avant d'être un procédé de calcul, a d'abord été un homme, Al-Khwarizmi, qui vivait à Bagdad au 9e siècle et qui écrivait en arabe. Mais cette question de mon ami est révélatrice de notre manque de familiarité avec les algorithmes. Pourtant, on en entend de plus en plus parler. En quelques années, ce mot a envahi les médias. Autrefois, lorsque j'allais dans une administration et que je n'arrivais pas à obtenir ce que je souhaitais, on me répondait « Ah madame, vous comprenez, c'est l'informatique ». Maintenant, on me dit « Ah madame, vous comprenez, c'est l'algorithme ». L'algorithme de Facebook, de Google, l'algorithme APB, l'algorithme de notre GPS, d'Amazon ou de la SNCF ou d'approvisionnement des entrepôts du supermarché. Ils sont partout. Ils envahissent tout. Ils font disparaître nos emplois. Certains craignent un grand remplacement des travailleurs par des algorithmes et en plus, ça vient de l'arabe.
Vous voulez réagir à cette boutade de Claire Mathieu, bien plus profonde qu'il n'y paraît, qui m'a appris du coup à bien écrire le mot algorithme.
Mais oui, j'aime beaucoup l'idée des anecdotes parce que c'est le meilleur moyen pour que les gens se souviennent des choses. Et donc c'est très joli comme elle l'a introduit dans sa leçon inaugurale. Donc oui, le mot algorithme, moi-même je le mets dans le livre à 19 ans quand j'ai eu mon premier cours d'algorithmique et que j'ai vu le mot algorithme, je pensais très naïvement, en tout cas avec une certaine prétention d'une jeune étudiante de 19 ans, que ça venait du grec. Donc j'ai mis un petit moment avant de bien l'écrire. Donc voilà, donc je reconnais. Et c'est vrai qu'encore une fois, donc comme elle le précise, c'est Al-Khwarizmi, donc de mathématicien perse du 9e siècle, qui est aussi à l'origine de l'algèbre, faut le savoir. Et donc voilà, qui avait positionné les règles de base de l'algorithmique. Et ça vient, donc le mot algorithme vient du mot latin, du nom latinisé d'Al-Khwarizmi, qui est algorithmi.
Voilà pour ce qui est de l'étymologie du mot algorithme. En même temps, ces algorithmes, alors Claire Mathieu le disait aussi, ils nous font peur, ils sont partout, on en parle beaucoup. Jusqu'où nous calculent-ils, hein? C'est autour de cette question que nous interrogeons avec vous aujourd'hui, Aurélie Jean. Alors merci d'abord de nous faire passer de l'autre côté de la machine pour reprendre le titre de votre essai qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Mais est-ce que vous pouvez aussi répondre à plusieurs questions de nos auditeurs, parce qu'ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à les soulever. Alors il y a depuis Haïti, c'est Valentino Ralph Jean, qui nous dit alors les algorithmes, les chercheurs disent qu'ils sont tous au service des gens, je le cite. Il dit néanmoins, j'ai appris que les algorithmes et l'intelligence artificielle qui s'incorporent dans des robots sont des outils usuels, ce qu'on appelle en anglais des proxies. Donc il y a toujours quelqu'un derrière tout ça, un programmateur. Mais, demande Valentino Raljean depuis Haïti, ne risquons-nous pas de vivre dans une aristocratie technologique et que ceux qui n'auront pas la bonne compétence, qui ne seront pas grâce à vous, religieux, passés de côté de la machine, seront des laissés pour compte et ne comprendront pas ce qui se passe, le monde.
C'est une excellente question et je retiens le mot aristocratie technologique. Je trouve ça très joliment dit. Et oui, en fait, cette personne a entièrement raison. C'est-à-dire, c'est ce que j'explique aussi dans le bouquin. Vers la fin, je dis justement, j'écris, je ne veux pas vivre dans une société où seuls les gens qui comprennent auront le choix. Et c'est ça aussi la chose, c'est-à-dire qu'à travers une compréhension des outils, on peut aussi avoir le choix d'utiliser ces outils ou pas, ou en tout cas d'avoir une posture différente pour mieux défendre ses droits. Donc oui, cette personne a raison, c'est-à-dire qu'on risque d'aller vers ça, mais ça a été le cas, j'ai envie de dire, de beaucoup de technologies, de beaucoup de choses. Ce n'est pas que le cas de l'intelligence artificielle et des algorithmes, mais c'est vrai que les choses se passent tellement vite aujourd'hui,
ça
va tellement beaucoup plus vite que dans d'autres domaines et à d'autres époques, qu'en effet, le risque est donc d'autant plus fort. Et donc le rôle de nous, scientifiques, ingénieurs, développeurs, est d'expliquer. Et puis le rôle des gens est de s'y intéresser, le rôle des médias est de jouer aussi ce rôle de médiateur, justement d'essayer de transférer l'information. Voilà, il y a plein. Et puis aussi le rôle des décideurs économiques de former leurs employés, ou encore des décideurs politiques d'avoir les bonnes visions pour le pays, l'éducation, la société et autres.
Voilà. Oui, c'est ça. Et à quel point c'est important.
C'est extrêmement
important.
Alors
pas tant que ça de maîtriser les équations, c'est pas ça le problème, mais de comprendre. Un algorithme, ça a toujours existé. C'est une manière de calculer, de résoudre un problème qui est amplifié de plus en plus aujourd'hui et qui peut résoudre presque tous les problèmes. On viendra aussi aux questions éthiques un peu plus tard. Un autre auditeur, lui basé à Kigali au Rwanda, Jean-Baptiste Daumba, il nous dit, mais il y a des algorithmes pour tout, pour composer de la musique, pour réparer des tableaux, faire des mathématiques évidemment. Est-ce qu'il y a des algorithmes pour faire des algorithmes? Est-ce qu'on pourrait pas se passer des hommes et des femmes comme vous, Aurélie Jean?
Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais j'aime beaucoup la question de Jean-Baptiste. Donc en fait, lorsqu'on parle d'algorithmes qui font des algorithmes, ce serait par exemple des algorithmes auto-apprenants. Ce sont des algorithmes en fait qui vont créer leur propres critères à travers des données qu'ils auront peut-être eux-mêmes créées. Ça n'arrive pas encore. Même quand on parle d'auto-apprenant, en fait, les algorithmes n'apprennent pas seuls. En termes de... Quand Claire Mathieu parlait de grand remplacement, et donc pour rapprocher ça à la question de Jean-Baptiste...
C'est ça, la question, voilà. Question sociale
vous
aussi.
Savez, oui, et puis par rapport aux développeurs et aux algorithmiciens, je ne sais pas comment on peut les appeler, les gens qui développent des algorithmes, qu'ils soient développeurs ou scientifiques, ingénieurs, c'est... je veux dire, on aura toujours besoin de gens comme nous, c'est-à-dire que les algorithmes, il y aura toujours quelqu'un derrière, soit pour les développer, soit pour les coder, donc les écrire, soit pour les coder, soit pour les tester, soit pour les déployer. Enfin, ça ne marchera pas avec un coup de baguette magique, vraiment.
Donc il y a toujours un humain derrière la machine, c'est
ouais,
ça.
Ouais,
hein.
Tout à fait.
Allez, nouvelle question qui va dans le même sens, soulevée par notre confrère de Sciences et Avenir, Mathieu Novak.
À quand un algorithme qui écrira un autre algorithme meilleur que lui?
Alors,
j'aime bien cette question aussi. Alors, c'est intéressant parce que l'algorithme, sans que l'algorithme s'écrive lui-même, l'algorithme évolue déjà. C'est-à-dire qu'un algorithme avec le temps est censé, en théorie, être mieux. Évoluer positivement, enfin être plus efficace.
Il est censé apprendre, engranger plus d'informations, c'est
exactement,
ça.
Parce qu'avec le temps, il va engranger plus d'informations, il va faire face à plus de situations, plus de cas, plus de scénarios, et donc va s'améliorer. Il va améliorer les critères pour inclure davantage de scénarios. Donc il va quelque part augmenter les spécifications, ses spécifications. Donc oui, l'algorithme va évoluer, mais qu'il évolue lui-même seul dans son coin, pas forcément. C'est plus compliqué que ça. Voilà.
Et est-ce qu'il faut croire certains sociologues, notamment, qui travaillent sur la question, et qui disent, mais finalement, les algorithmes, ils ont besoin d'apprendre, de s'exercer énormément, et finalement... on est tous employés par des grosses firmes, les gens Google et autres, parce que finalement, à chaque fois qu'on coche les bonnes cases, qu'on n'est pas un robot, qu'il y a bien les bonnes voitures ou les bons feux de circulation, ben on fait travailler les machines. Et finalement, on est des auxiliaires de travail ou d'apprentissage pour les machines.
C'est vrai, ça ? Oui, complètement. C'est-à-dire, dès que vous utilisez un outil, les données d'usage, vos données, en fait, vont être utilisées à améliorer l'algorithme. Mais ça, en soi, ce n'est pas un problème si l'algorithme est là pour améliorer votre service à vous est amélioré. C'est un problème, ça peut devenir un problème si les données sont utilisées à mauvais escient, si on vous envoie de la publicité orientée, cachée, si on vous envoie... Voilà, en fait, c'est une question de transparence, de responsabilité. Mais c'est vrai que... Et du coup, les gens peuvent aussi décider comment utiliser ces outils. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Oui. Vous parliez de Google. Moi, c'est mon moteur de recherche. Sauf que, alors que professionnellement, j'utilise en mode classique, lorsque je fais des recherches de l'ordre privé, je suis en mode privé, incognito. C'est-à-dire que mes données ne sont pas utilisées pour mieux me servir.
Pour ça, il faut juste cliquer sur le bon...
Tout simplement.
Il faut juste bien le programmer.
Voilà, mais il faut le savoir.
Bien sûr.
Et alors, c'est vrai que du coup, c'est un peu pénible parce que je dois tout taper à la main. Il faut qu'il ne reconnaît pas l'histoire. Il n'y a pas d'historique. Mais voilà, c'est le coût de la décision, comme on dit.
Le coût de la décision, donc c'est un choix. Au fond, vous dites, il y a toujours quelqu'un derrière les machines, il y a toujours quelqu'un devant aussi, hein. C'est nous qui les utilisons.
Exactement.
Donc plus on en sait, plus on peut parer, être conscient que de toute façon, on est quand même face à des marchands qui cherchent plus à nous vendre des choses qu'à nous...
Mais comme toujours. Hein.
Mais comme toujours.
Un boulanger qui fait du pain, il veut vous vendre du pain et encore heureux. Enfin, je veux dire, vous voyez. Donc je pense qu'il faut... ce qu'il faut, c'est éviter le déséquilibre des relations, vous voyez, et faire en sorte que les gens qui sont en face... comprennent et agissent en conséquence. Vous savez, moi je dis souvent en fait, pour les grands géants de la tech, les utilisateurs sont leurs meilleurs ennemis. Je dis ça parce que je veux qu'ils deviennent leurs meilleurs ennemis. C'est plutôt
oui, parce
ça que
c'est
je devrais
pas
dire.
Le cas, en fait,
c'est
pour
pas
le
complètement
moment
le cas aujourd'hui. Et je veux qu'ils soient leurs meilleurs ennemis, c'est-à-dire des ennemis parce qu'ils vont les embêter, ils vont comprendre, du coup ils vont poser des questions, ils vont pas vouloir utiliser l'outil comme ils le souhaitent, ils vont pas vouloir cocher la case pour dire qu'ils sont d'accord sur tel ou tel aspect de la communication, de transfert de leurs données. Pourquoi meilleurs? Parce que c'est comme ça que je le vois avec les gens pour lesquels je développe des outils, c'est que grâce à eux. Grâce à leurs plaintes, grâce aux défis qu'ils me lancent, les outils que je développe sont bien meilleurs.
Donc il va falloir, nous tous, hein, profanes, qu'on se remue un petit peu et qu'on accepte moins, ce qui est le cas dans les entreprises, comme la nôtre, un peu partout. Oh, ben, y a un nouveau logiciel, il correspond moins à ce que je voulais, mais c'est pas grave, c'est comme ça.
Non, c'est pas comme ça. Oui. Et puis vous savez, c'est marrant parce que par exemple, moi je lis énormément de livres sur des livres. Je n'achète pas de. J'ai essayé pourtant. La première fois quand je suis partie il y a plus de 10 ans aux États-Unis, j'ai essayé la tablette pour lire des livres. Ça n'a pas marché. Ça a été une catastrophe pour moi. Donc je lis sur des livres et je me dis souvent quand je lis tous les jours, hein, et je me dis c'est marrant parce que c'est un moment où en fait personne ne sait ce que je fais et les data, il n'y a pas de data. Voilà, elles sont... Vous voyez ce que je veux dire? C'est rigolo. Donc c'est un petit moment de liberté. Voilà. J'apprécie ce moment encore davantage.
Autour de la question, comment les algorithmes nous calculent ou pas, je vous propose de nous arrêter en musique sur les algorithmes de Muse. Ça déménage.
Vous écoutez RFI autour de la question. Oh,
les algorithmes de Muse sur RFI, c'est pour vous, Aurélie Jean.
Bah, j'adore Muse, donc merci.
Autour de la question, comment nous calcule-t-il les algorithmes ? Avec vous, vous êtes numéricienne, Aurélie Jean, je le rappelle, et votre dernier essai s'intitule et nous entraîne de l'autre côté de la machine. Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes, un voyage qui recommence maintenant au cinéma avec Her, elle, Samantha, une assistante numérique pas tout à fait comme les autres, qui illustre précisément ce qu'en informatique on appelle l'effet Elisa, extrait de la bande-annonce de Her, le film de Spike Jonze.
Monsieur Théodore Twombly, bienvenue dans le monde du premier système d'exploitation à intelligence artificielle. Nous aimerions vous poser quelques questions.
Ok.
Merci. Veuillez attendre pendant que votre système d'exploitation est initialisé.
Bonjour, je suis là.
Salut.
Salut, je suis Samantha. Bonjour Théodore.
Bonjour.
Vous avez une réunion dans 5 minutes. Vous voulez essayer de sortir du lit ?
Vous êtes trop drôle.
Je suis drôle, bien, ok. Je veux apprendre tout sur tout.
J'aime votre façon de voir le monde.
Comment c'est d'être en vie dans cette pièce à cet instant précis ?
J'aimerais pouvoir mettre mes bras autour de toi. Pouvoir te toucher.
Comment me toucherais-tu ?
On n'en saura pas plus, et en plus c'est en VF et pas en VO, désolé Aurélie Jean, mais c'est bien suffisant pour vous faire réagir sur le trou dans lequel nous met Samantha Her dans ce film de Spike Jonze.
Ouais, vous en aviez parlé juste avant la petite bande sonore, donc c'est l'effet Elisa. C'est-à-dire c'est lorsqu'on a un sentiment d'empathie spontanée envers une machine qui a des caractères anthropomorphiques, à savoir des caractères de l'humain. Ça peut être dans le physique, mais ça peut être dans la voix, comme dans le cas de Her, parce que rappelons quand même que dans Her, ce n'est qu'une voix. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de machinerie, vous voyez, donc c'est vraiment qu'une voix.
Sauf que c'est la voix de Scarlett Johansson.
Oui, ce qui est extrêmement sexy, très beau et romantique et inspirant. Mais voilà, et en fait, d'où ça vient, si je peux expliquer
L'effet Elisa, moi j'ai appris grâce à vous.
Et je trouve ça hyper important parce que je pense que tout le monde, on parlait tout à l'heure de ce que les gens devaient comprendre, il faut que tout le monde comprenne ce qu'est l'effet Elisa. Et je vais expliquer pourquoi, parce que moi-même, je suis victime de l'effet Elisa, mais parce que je le connais, je peux comprendre et du coup mieux réagir. Donc l'effet Elisa, c'est dans les années 60, en fait, au MIT, il y a un professeur qui a développé un chatbot à l'écrit. Donc un chatbot, c'est un, comment on dit en français,
un robot de communication.
Voilà, exactement, qui communiquait à l'écrit avec des patients en psychothérapie. Et donc, le chatbot, qui était quelque chose d'extrêmement simple, entièrement explicite, qui disait au patient, lorsque le patient disait « petit, je ne m'entendais pas avec mon frère », le chatbot écrivait « petit, virgule, vous ne vous entendiez pas avec votre frère », point d'interrogation. Et à chaque fois, et de temps en temps, il disait « je vous comprends ». Et au bout d'un certain moment, les patients avaient l'impression de parler avec un humain et du coup développer de l'empathie pour ce chatbot qui communiquait à l'écrit avec eux. Les caractères anthropomorphiques, ici, étaient juste dans les mots, en fait, utilisés. « Je vous comprends ». Donc, mais...
Ça suffisait à l'humain pour développer de l'empathie.
Exactement. Et je vous parle de ça parce que c'est exactement ce qui se passe avec Samantha et Théodore dans Her, où en fait, justement, parce que Samantha utilise, en plus elle s'améliore avec le temps, qu'on voit dans le film, parce qu'elle récolte de la data, donc elle s'améliore, et avec ses interactions avec Théodore, et donc à un moment, elle lui dit même qu'elle l'aime, ou elle lui dit, et lui ça le perturbe, et donc il n'arrive plus à faire la différence entre le réel et le virtuel, à savoir est-ce qu'elle le dit ou est-ce qu'elle le ressent aussi. Et pourquoi je dis que c'est important que tout le monde comprenne cet effet Elisa, parce qu'en fait, moi, par exemple, récemment, j'ai eu une petite expérience sur une vidéo sur Internet d'un robot de la société Boston Dynamics, un petit robot qui ressemblait à un petit chien, en plus c'est très mignon, et qui se faisait tabasser par un humain. Pourquoi ? Parce que ce sont des robots qui sont faits pour aller sur des zones minées, pour aller déminer, ou voilà. Donc c'est des robots qui doivent être capables de marcher dans des terrains un peu en difficulté, qui doivent pouvoir se remettre debout s'ils tombent. Donc il y avait des tests pour bousculer le robot et le faire tomber. Et moi, ça m'a fait très mal de voir ce robot se faire maltraiter. Alors qu'il ne se fait pas maltraiter du tout. Et les mots que j'utilise sont très dangereux d'ailleurs.
Bien sûr.
Et je me suis dit, hop, je sais ce que c'est l'effet Elisa. J'ai arrêté la vidéo et je me suis dit, c'est l'effet Elisa.
C'est pas la réalité.
Voilà.
Donc on colle moins à la réalité.
Exactement.
Réalité qui m'a surprise moi aussi quand j'étais face au petit robot Nao qui était
dans le
studio ici même sur la table avec sa petite bouille. Au bout d'un moment, j'avais envie de le câliner comme si c'était un petit.
Vous êtes victime de l'effet Elisa. Mais vous serez toujours victime parce qu'on a un cœur et
bien
qu'on
sûr.
Est empathique. Mais ce qu'il faut, c'est le savoir et du coup réaliser au moment quand vous êtes devant ce petit robot de dire non, ce petit robot ne ressent rien et je ne dois pas être attendri par ce petit robot.
C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. C'est une machine que j'ai en face de moi.
Exactement.
Hein. Alors comment justement y arriver? Comment ne pas se laisser prendre au jeu dans nos environnements qui vont être bientôt totalement connectés avec des assistants robots et robots qui nous parlent déjà. Hein. C'est tout le sens de la question que va soulever à l'instant le sociologue Serge Tisseron. Hein, lui, il est fondateur de l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots. Son prochain ouvrage s'intitule « Plus jamais seul, l'emprise insidieuse ou la révolution silencieuse des machines parlantes ». On l'écoute parce qu'il a une question pour vous, Aurélie Jean.
Je crois qu'il faut bien comprendre que dans la révolution qui est en train de se faire autour du numérique, ce qui change, c'est pas seulement la complexité des objets auxquels nous avons affaire, c'est aussi le fait que ces objets vont être de plus en plus intégrés dans notre vie sociale au même titre que des partenaires humains. Nous allons parler à ces objets, nous allons leur expliquer ce que nous voulons, ils vont peut-être même nous poser des questions, nous faire préciser notre pensée, ils vont nous interpeller. Et donc du coup, le problème n'est pas de comprendre comment la machine fonctionne, c'est d'accepter l'idée qu'une machine peut avoir dans notre réseau social la place d'une créature animée, autonome, presque dotée d'une personnalité, et qu'en même temps, ça reste une machine. Autrement dit, ce qui va être un problème, ça va être de développer chez l'humain une sorte de double conscience. Je sais bien que j'interagis avec cette machine comme avec un humain, sinon l'interaction ne serait pas possible, mais en même temps, je dois garder à l'esprit qu'elle n'est qu'une machine.
Alors comment on fait? Comment vous faites, Aurélie Jean? Parce que c'est une question qui se pose et qui va se poser de plus en plus. Hein.
Oui, vous avez raison. Et ce que dit Serge Tisseron est vrai, c'est-à-dire que moi, j'aime parler de d'IA forte apparente. Alors juste pour que les gens comprennent.
IA, l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle est forte, c'est une pure théorie et aucun scientifique sérieux n'y croit. Mais par contre, on essaie de l'atteindre parce que c'est intellectuellement stimulant.
On n'y est pas encore. C'est l'intelligence artificielle la plus forte possible.
La plus forte possible, à savoir lorsque les machines ont une conscience d'exister, lorsqu'elles ont conscience d'exister et donc des émotions. Bon, ça n'arrivera pas. Par contre,
ça n'est pas pour le moment dans les tuyaux. Mais vous dites que
ça n'arrivera pas. Par contre, et c'est là ce que dit Serge Tisseron est important, c'est qu'en fait, on va baigner à un moment donné dans une société où on aura l'impression qu'elle existe. C'est pour ça que je dis apparente. Pourquoi on aura l'impression qu'elle existe? Parce que si des robots commencent à vous dire, à parler avec vous, à vous demander si vous allez bien, à vous dire oh vous avez l'air fatigué, à vous dire je vous aime, à vous dire, à un moment donné, on aura l'impression que tous ces robots vont avoir des sentiments pour nous. De l'empathie.
Et nous, on en aura pour eux.
Exactement. Et du coup, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça peut modifier aussi nos comportements entre nous humains. C'est-à-dire que si on est avec une machine qui n'arrête pas de dire qu'elle nous aime, qui est loyale, qui est formidable, qui est à notre écoute tout le temps, on peut peut-être s'écarter des rapports humains. Voilà. Et du coup, on peut peut-être s'écarter des rapports humains qui sont pourtant fondamentaux en fait, pour notre développement et notre vie.
Puis on dit que ça peut être très dangereux pour des enfants notamment, parce que si on a tout de suite dès qu'on veut par une machine totalement aimante, hein, entre guillemets, et qui est là pour répondre au moindre de vos désirs, problématique.
Vous avez raison, et c'est pour ça qu'il faut penser à l'effet Elisa. Mais c'est intéressant que vous parliez des enfants, parce qu'il y a ils ont remarqué en fait aux États-Unis que les enfants, vous savez, les petits aspirateurs autonomes qui aspirent tout seuls dans la maison. Alors aux États-Unis, ils avaient un nom, donc c'est les Roomba, c'est une marque, enfin peu importe. Et en fait, les enfants qui avaient ces petits Roomba à la maison, et ben ils commençaient à donner des noms au petit Roomba. Et surtout, ça les peinait, les enfants, de voir que le petit robot, en fait, pouvait buter contre un jouet ou un livre disposé par terre dans la chambre. Et du coup, les enfants ont commencé à ranger leur chambre.
Un effet positif, voilà.
Mais
en même temps, on se dit, c'est quand même complètement fou, parce que comment ils feront ces enfants-là? Enfin, comment on fait?
Je suis complètement d'accord.
Ça pose une vraie question.
Et moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychanalyste.
Finalement, c'est une question... pour notre humanité, enfin, comment on fait face à ce qui se passe, face à ce qui se déroule, même si, au fond, vous dites que c'est pas de l'intelligence artificielle dont il faut avoir peur, avec tous les guillemets, c'est de nos réactions face à cette intelligence artificielle, ce que nous mettons dessus.
C'est les deux. Hein. C'est-à-dire que si on parle d'émotion, il n'y a pas à avoir peur de l'IA, de l'intelligence artificielle, il faut davantage avoir peur de nous, de nos réactions et de nos interactions avec ces machines. L'IA, si les menaces, il y en a d'autres, en fait. Ce ne sont pas liées aux émotions, c'est encore autre chose.
Voilà. C'est quoi? C'est par exemple les robots tueurs? C'est par exemple les armes?
Des choses comme ça, ou ça peut être aussi si toute intelligence artificielle qui n'est pas destinée à faire du bien, qui va faire du bien à peut-être une majorité de gens, mais qui peut faire du mal à une minorité. Donc il faut toujours faire attention, en fait. C'est propre à toutes les technologies, toutes les innovations. C'est cette question de est-ce qu'on fait du bien aux gens, mais est-ce qu'on risque pas de faire du mal même à une minorité. Donc c'est des réflexions profondes à avoir dès qu'on développe quelque chose.
C'est ça, réflexion profonde à avoir, d'autant plus en démocratie, pour le rester. Autour de la question de ces algorithmes, de nos fausses peurs et des vrais défis, hein, des vrais enjeux. Je pose une nouvelle question tout de suite pour vous, Aurélie, soulevée par le philosophe des sciences Philippe Huneman.
Le fait qu'il y ait des algorithmes qui régissent quand même énormément de choses dans notre vie quotidienne, hein, que ce soit les téléphones, les embouteillages, les avions, l'électricité. Hein. Est-ce que d'une part, ça n'induit pas un certain type de vulnérabilité qu'on n'avait jamais connue en fait ? Et d'autre part, l'un des espoirs, il me semble, des algorithmes, c'était qu'on n'était pas soumis à la faillibilité humaine. Et donc, que par exemple, je me souviens que j'avais lu des choses sur les algorithmes qu'on utilise pour décider si une personne qui est en prison est apte à la libération conditionnelle ou pas. Et donc on se disait, bah oui, c'est un juge qui va voir une personne, bon, il va trouver que la personne, elle est habillée en vert, il déteste le vert, et paf, il le remet au trou, parce qu'on est humain, etc. Bon, l'algorithme, non. Donc l'algorithme est entre guillemets objectif, et puis on s'est rendu compte que l'algorithme, bah, il décidait en faveur du cadre supérieur qui a étranglé sa femme et manqué la tuer, et il remettait en prison... Le cadre supérieur blanc, hein, c'est où on est aux États-Unis, et il remettait en prison le noir qui a brûlé deux feux rouges. Parce que, bah, évidemment, il les classait dans des catégories où il y en a, voilà, dans la même catégorie, il y a beaucoup de gens qui ont été en prison, d'autres, etc. Et donc, les algorithmes bah, reproduisaient en pire, en fait, les biais sociaux, alors pas les biais individuels, genre j'aime pas le vert, mais les biais sociaux auxquels les juges sont soumis, et donc ce résultat est presque pire. Et donc, ma question, elle est très simple, c'est est-ce qu'il y a un moyen de remplir cette promesse, c'est-à-dire faire en sorte que les algorithmes soient quelque chose qui objective et qui se libère en quelque sorte des biais qui sont des biais discriminants, ou est-ce qu'il n'y a pas de moyen et que ce qu'on est, on est soumis à une invasion de discrimination, il a tel et tel préjugé.
Votre réponse, Aurélie Jean, vous consacrez d'ailleurs dans votre livre, hein, De l'autre côté de la machine, tout un chapitre à cette question des biais algorithmiques, entre parenthèses, c'est une rencontre sans fin, donc effectivement, oui. Il y a du boulot. Mais justement, comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ces questions de discrimination, où effectivement, on aurait pu croire au début que bah, nous, les humains, on discrimine de toute façon, on a des préjugés, notamment raciaux, on s'est dit, avec les machines, il n'y aura pas, puis si.
Oui, en fait, tout à fait.
Différemment, mais il y a aussi.
Et c'est vrai que on a cru. Enfin, les gens peuvent croire naturellement que parce que les mathématiques sont impartiales, que les algorithmes le seront également. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que nous décidons, humains, de comment l'algorithme va fonctionner, nous décidons de comment sur quoi l'algorithme va être entraîné ou calibré, donc sur quel type de données. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le cas de ces déjugements donc, que Philippe m'a expliqué. Et donc, c'est vrai qu'on va, on a le risque, en fait, de transmettre, soit de reproduire des biais du passé dans les outils du futur, soit de soi-même d'incorporer, d'introduire les biais que nous avons dans le présent. Alors, la solution à cela, c'est surtout pas de penser qu'on va éliminer nos propres biais cognitifs pour éviter d'introduire des biais dans les machines, parce que ça, je pense que c'est idiot, parce que on est qui on est, je veux dire, on est la pluralité des individus, la richesse de l'individu, c'est aussi ses biais, et tous les biais ne sont pas négatifs, ne sont pas impact négatif, même s'ils peuvent l'être dans une machine. Donc j'ai envie de dire, éliminer les biais, c'est pas possible, de toute façon, c'est, de façon pratique, je pense que ce serait impossible.
Oui, on déjà, est fait de biais
voilà,
cognitifs,
je pense que déjà, c'est pas possible, donc déjà, ça, soyons réalistes. Cela étant dit, il y a des moyens technologiques et non technologiques pour essayer d'éviter ces biais dans les machines, ou en tout cas, de les détecter le plus possible en production. Donc typiquement, ça va être les bonnes pratiques de développement, c'est-à-dire que, alors tout d'abord, on va, ça peut paraître idiot, mais par exemple, si vous incorporez les gens du métier, par exemple, quand vous développez un algorithme dans un domaine précis, ça va être, les ressources humaines sur le recrutement. Eh bien, d'introduire les gens du métier des ressources humaines dans la conception algorithmique, ça peut vous permettre d'éviter des erreurs.
Oui, c'est ça, parce qu'ils seront là où ça
exactement.
Peut être dangereux, là où
ils ont des réflexes. Ils ont des réflexes que nous, scientifiques, ingénieurs, développeurs, n'avons pas, ce qui est normal parce que ce n'est pas notre métier. Et d'ailleurs, je le dis beaucoup dans le livre, c'est-à-dire que moi, je n'aurais jamais pu, même encore aujourd'hui, je ne peux pas faire mes algorithmes sans les gens du métier. C'est pas possible.
Ouais, oui,
si je fais un algorithme dans le milieu financier, il me faut quelqu'un qui soit de ce milieu. Dans le milieu médical, il me faut un médecin. Dans la spécialité dans laquelle je travaille, enfin, c'est très, très, très compliqué.
Ça ne peut pas être hors sol, bizarrement. Non, c'est un monde virtuel, mais qui n'est absolument
pas hors sol.
Dans le réel, hein.
Complètement. Donc, il y a ça. Après, il y a des tests sur les données qui sont fournies à l'algorithme pour être entraîné ou être calibré. Et auquel cas, il y a des tests classiques en statistique qu'on appelle des tests d'échantillonnage qui vont d'une part regarder la taille de l'échantillon, donc le nombre de données, mais aussi la nature des données. Donc, il y a plein de techniques. On peut même, on dit en fait qu'on crée des données, on fait des données synthétiques. synthétiques à partir des données d'origine, on les modifie un peu, on voit ce que donne l'algorithme, et puis si on voit que c'est très différent, on se pose la question de est-ce que ces données existeraient vraiment dans la réalité ?
Ah, il faut le voir à l'usage. Quoi.
Voilà. Et puis, il y a aussi, il y a plein de petits réflexes comme ça. Et puis, il y a aussi des tests qu'on appelle de backtesting, c'est-à-dire que quand l'algorithme est utilisé ensuite par les utilisateurs, et ben, de continuer à faire des tests pour voir
et
comment
oui,
ça se passe.
Et oui, parce qu'il a une vie à lui, et les utilisateurs exactement. L'utilisent d'une certaine manière.
Exactement. Alors, mais... tous les algorithmes ne sont pas amenés à évoluer. Certains vont être figés, mais ceux qui ne sont pas figés, oui. Enfin, de toute façon, les deux, il faut continuer à les tester.
Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas aussi changer dans ce monde numérique, dans ces algorithmes, aussi réfléchir autrement qu'en termes de majorité, minorité ? Parce que là, dans ce cas précis de justice entre les blancs et les noirs, si on met juste une question de chiffres, on va dire mais il y a beaucoup plus de noirs en prison, donc l'ordinateur va continuer à accentuer cette discrimination, ce racisme. De fait, comment on fait là ? Parce qu'il faut carrément il faut changer quelque chose.
Vous avez entièrement raison, parce que autant sur le cas du jugement, tout le monde va être d'accord. Par exemple, sur un autre cas où les gens n'arrivent pas forcément à être d'accord, et j'essaie encore de trouver des arguments, c'est sur le cas des assurances. Mmh. Les assurances voiture, si vous êtes noir aux États-Unis et qu'un algorithme définit le coût de votre assurance voiture, vous paierez, quand si vous êtes noir, vous avez de fortes chances de payer bien plus cher qu'un blanc. Pourquoi ? Parce que bah, dans les statistiques, en fait, quand vous êtes noir, vous avez plutôt des revenus plus bas, donc vous avez des voitures moins bonne qualité qui vont tomber plus en panne, et donc vous allez payer d'assurance.
Ouais, c'est la double, triple peine.
Voilà.
Quoi.
Donc quand je dis ça aux gens, ils disent bah oui, mais bon, en fait, en même temps, c'est les statistiques. Hein, globalement, si vous êtes noir et que vous avez une voiture, je dis non, mais on peut pas parler en termes. On ne peut pas transformer. De façon générale, on ne peut pas transformer une représentativité statistique en une condition systématique algorithmique. Ça, c'est la chose extrêmement importante. Il faut aller voir d'autres critères. Il faut penser beaucoup plus intelligemment que ça, parce que sinon, on va reproduire des biais profonds. Et dans le jugement, on le sait, dans le recrutement aussi, vis-à-vis des femmes, en l'occurrence, pour des
oui,
postes.
Oui, vous l'avez montré voilà. Vous aussi, hein, que les algorithmes sont discriminants vis-à-vis des femmes.
Alors, oui, par exemple, il y a eu un test. Alors, c'était un test, il faut le dire quand même, parce que Amazon avait fait un test en octobre 2018, et c'était encore une fois, je précise, un test, parce que les médias ne l'avaient pas précisé. Ils avaient donc fait un algorithme pour aller sélectionner les meilleurs CV pour un poste d'informaticien, de développeur informatique. Comment ils ont fait ça ? Bah, ils ont appris à l'algorithme sur les embauches des 10 dernières années à ce poste de développeur informatique. Sauf que, je vous vois sourire, mais c'est vrai.
Bah oui, parce que du coup, il y avait des hommes.
Bah oui, il n'y avait que des hommes. Et donc l'algorithme n'a fait que reproduire un biais statistique. Enfin, c'est même pas un biais, une statistique du passé. Et c'est vrai qu'à l'époque, et c'est là où je vous dis d'introduire les gens du métier, c'est que si l'équipe technique avait travaillé main dans la main avec les ressources humaines, je peux vous assurer. Je pense vraiment que les gens auraient dit, mais attendez, si vous faites apprendre sur les dernières années, il y a forte chance que ça ne marche pas.
Mais oui, c'est ça, c'est d'une évidence absolue. Voilà. Mais ce que vous montrez, ce qui est très instructif aussi dans votre livre, c'est qu'on a l'impression que ce monde numérique amplifie tout, en fait. Le meilleur, comme le pire de notre monde, et de nos sensations, et de nos émotions, et de nos préjugés. Enfin, vraiment, c'est vraiment les deux en même temps. Alors, à nous d'être à la hauteur. Hein.
Vous avez raison. Alors, sur deux points, par exemple, le premier, c'est que si on peut trouver un petit point positif quand même, c'est grâce à ces algorithmes, on fait ressortir des biais qu'on pensait avoir disparu.
Qui sont toujours là.
Et ça, je trouve ça intéressant de voir qu'on a encore des biais sexistes et racistes dans nos sociétés aujourd'hui, sur des données actuelles. Et ça permet de les faire ressortir et du coup d'en prendre conscience et d'agir en conséquence. Et ça, je trouve important. Et le deuxième point aussi intéressant par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que je suis très intéressée par ça. Alors moi, c'est pas du tout mon domaine. Hein. Je sais qu'il y a des gens comme Laurence de Villers, c'est son domaine sur l'interaction homme-machine. Mais par exemple, si un algorithme vous dit que vous êtes heureux ou triste, si vous dit que vous êtes triste, peut-être que le fait qu'il vous dise que vous soyez triste, ça va engendrer une tristesse. Oui. Peut-être que vous n'êtes pas si triste. Vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument. Hein. Comme quand on vous dit tu as mauvaise mine, bah, on n'est pas content.
Exactement.
Et on est encore plus.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est peut-être un effet placebo du sentiment ou de l'émotion. Mais vous voyez, donc, c'est en termes d'amplification aussi,
bien sûr,
peut jouer.
Bien
donc, c'est pas mon domaine, l'interaction homme-machine, mais ça m'intéresse énormément parce que je trouve ça passionnant.
Attention, on va retrouver Laurence de Villers, autre grande professeure d'informatique qui s'intéresse effectivement aux émotions des robots, juste après une autre femme chanteuse, cette fois-ci, autour de toutes ces questions algorithmiques. Elle s'interroge philosophiquement, c'est Keren Ann sur RFI. Que neige ?
Je pourrais bien brouiller les pistes.
quand Karen Hahn s'efface du paysage et de notre réalité virtuelle sur RFI. Autour de la question comment les algorithmes nous calculent ou pas, nous passons de l'autre côté de la machine, titre de l'essai de notre invitée, la numéricienne Aurélie Jean, qui nous entraîne au pays des algorithmes et qui nous fait découvrir aussi que nous pouvons être des citoyens informés, qui comprennent un peu responsables. Et puis qu'il faut aussi être un ou une développeuse responsable. C'est ce que vous essayez d'être finalement, Aurélie Jean. Qu'est-ce que vous développez justement comme algorithme et comment vous faites pour, en interdisciplinarité, on l'a bien compris, pour essayer d'avoir conscience des enjeux, par vous entourer de gens qui sont vraiment dans les métiers que vous traitez?
Déjà, comme je l'ai dit, moi, que ce soit dans la partie, parce que je fais du conseil en fait, avec l'équipe d'Altermind, où je fais de la recherche avec mes équipes de la côte Est, c'est vrai que je pars du principe déjà que je fais des erreurs. J'en parle dans le livre, j'ai fait des grosses erreurs qui ont été rattrapées au vol par les gens du métier, j'insiste. Et donc j'essaie tout le temps de m'entourer des bonnes personnes pour travailler. Et j'essaie aussi un point important, d'être en contact avec des gens différents. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis une femme de 37 ans, venant d'un certain milieu, avec de culture franco-américaine, enfin voilà. Et donc je vois la vie, les choses, les êtres sous mon propre prisme, et j'essaie souvent de m'entourer en fait, de gens différents de moi pour leur parler même de ce que je fais, et de voir en fait, si je n'ai rien oublié.
Belle diversité, voilà. On aimerait entendre ça plus souvent. Dernière petite question, peut-être soulevée par cette chercheuse que vous avez citée, Aurélie Jean, la professeure en intelligence artificielle, Laurence de Villers, qui travaille donc sur les interactions homme-machine et qui va publier son prochain livre ce mois-ci sur les robots émotionnels. On l'écoute.
Aurélie, bonjour. Donc, le monde des algorithmes est devenu notre monde à tous. On a des algorithmes sur nos téléphones, dans nos ordinateurs. Une omniprésence, en fait, de ce monde. C'est pas un monde virtuel à part, c'est un monde qui est certes un peu invisible pour beaucoup, qu'il faut mieux expliquer, et en cela, bravo. Mais c'est un monde pour lequel on doit prendre des décisions, notamment sur les grands domaines comme la santé, l'éducation. Que penses-tu, toi, du positionnement européen et français de travailler main dans la main avec Microsoft, Facebook, tous les GAFA, sachant qu'on voit quand même des intérêts qui sont peut-être divergents.
Que pouvez-vous répondre, Aurélie Jean, à cette question qui n'est pas très scientifique, de Laurence de Villers, qui est plutôt finalement politique et économique, principalement.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant avec Laurence, je dis coucou si elle écoute, c'est que justement Laurence se pose des questions au-delà de la science qu'elle pratique au quotidien. Et ça, c'est fondamental. Et cette question est importante. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'histoire, on a toujours eu ce qu'on appelle des concertations, des collaborations avec des entités qui, en apparence, étaient opposées. Et on peut imaginer que l'Europe, les États, sont en opposition avec des grands entreprises, en l'occurrence des grands géants de la tech qui ont un certain monopole.
Voilà, Google, Amazon, pour ne pas les citer.
Ce que citait Laurence. Cela étant dit, ce qu'il faut faire, c'est il ne faut pas se les mettre à dos, il ne faut pas ne pas discuter avec eux. Il faut discuter avec eux, il faut travailler avec eux, mais le tout dans un certain équilibre. Et c'est là où il faut faire très attention. Ouais. C'est-à-dire que les États, les décideurs politiques, doivent comprendre un minimum comment ces choses fonctionnent pour pouvoir avoir un discours pertinent et avoir des relations symétriques, avec équilibrées avec ces géants de la tech.
Sinon, ils se font entuber, pour le dire
ouais,
très
voilà,
clairement.
J'aurais pu utiliser ce mot.
Ben voilà,
voilà. Voilà. Et je pense que c'est fondamental. Et c'est davantage là-dessus où j'ai un peu peur. Après, on voit que les géants de la tech se rapprochent des États, veulent que les États les aident, mais en fait, pour la simple et bonne raison, c'est que les géants de la tech se rendent compte, en tout cas aujourd'hui, qu'ils sont amenés à prendre des décisions qu'ils ne veulent pas prendre. Par exemple, lorsqu'on voit des sites, enfin des plateformes comme Twitter ou Facebook, où il y a des contenus haineux, des contenus parfois à caractère pornographique, ils ne veulent pas prendre la décision d'enlever ou pas sur certains cas, parce qu'on le voit par exemple sur Facebook, il y a eu, si vous mettez une photo d'un sein nu qui est pourtant une belle œuvre d'art, et ben vous pouvez vous faire. Moi j'ai testé, mon compte a été arrêté. Donc, temporairement, mais on a en droit de se poser la question, mais pourquoi? Voilà.
Et puis où sont nos libertés?
Artistiques, voilà. Et à côté de ça, on voit des propos haineux, voilà, qui restent là et qui sont voilà. Donc on se rend bien compte en fait que ces géants de la tech sont amenés à prendre des décisions qu'ils ne veulent pas prendre pour plein de raisons, des raisons réputationnelles, des raisons même de justice tout simplement.
Donc, ils se tournent vers les États. Donc, en fait, j'ai envie de dire, les États ont un petit peu une position de force aujourd'hui parce que les géants viennent vers eux. Donc, maintenant, il faut que les États et nos dirigeants politiques aient une meilleure compréhension, et certains l'ont, hein, je le dis, mais encore une bien meilleure compréhension de comment cela fonctionne. Et ça passe aussi par, en s'entourant de scientifiques, d'ingénieurs, de développeurs, et je le dis vraiment, parce que, de chercheurs, parce que...
D'avoir une culture scientifique, oui, de nos dirigeants est une vraie culture scientifique. Voilà,
et puis de s'entourer aussi de ces gens. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on écrit des textes de loi, certes, on auditionne des experts, des scientifiques, mais moi, je dis qu'il faut aller bien plus loin, c'est qu'il faut aussi avoir ces scientifiques avec soi pour développer des visions, pour même écrire des textes de loi, parce qu'on voit qu'il y a des vides technologiques à l'image des vides juridiques, c'est-à-dire des choses qui sont peut-être... On ne peut pas être complètement explicite dans un texte de loi, sinon il n'évolue pas. Il peut difficilement être adaptable dans le temps et surtout, c'est compliqué. Mais néanmoins, il y a quand même des vides technologiques à l'image des vides juridiques où trop d'ambiguïté en fait, font que le texte fait l'opposé de ce qu'il devrait faire, à savoir protéger l'individu. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a une vraie culture scientifique à avoir auprès des États, qu'il y a à l'échelle des dirigeants et aussi de que les gens, les législateurs, les parlementaires s'entourent davantage vraiment de scientifiques.
Est-ce que vous avez l'impression, on va en terminer là-dessus, religion, parce que c'est passionnant, mais l'émission va bientôt s'arrêter. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes entre la France et les États-Unis, dans ces deux exemples-là, qu'il y a quelque part où ça fonctionne mieux?
Alors, écoutez, c'est très difficile de répondre en deux mots là-dessus. C'est un grand sujet, on pourrait faire une émission là-dessus. Plusieurs choses. Moi, la grosse différence que je vois, c'est les budgets. C'est-à-dire qu'on ne met pas les mêmes budgets dans la recherche. C'est quelque chose que moi, je... Donc, il y a ça de la part des États, mais aussi de la part des donateurs privés, je dis souvent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a des grands donateurs qui donnent des centaines de millions de dollars.
Finalement, il n'y a pas que les GAFA qui donnent de l'argent.
Non,
c'est ça.
Voilà, tout à fait. D'accord. Et il y a Trustman qui était dirigeant de Blackstone, qui a donné 350 millions de dollars au MIT, qui en a levé 1 milliard pour un centre d'IA. Moi, j'aimerais voir nos grandes fortunes françaises. Elles donnent, hein, mais pas pour l'IA, elles donnent pour plein d'autres choses, la médecine. Et je me dis souvent, est-ce que peut-être parce qu'elles ne voient pas la vision, qu'est-ce que peut apporter l'IA, en quoi le développement et la recherche dans l'intelligence artificielle est un différenciateur économique et sociétal pour l'Europe. Après, il y a d'autres choses, par exemple en Europe, on a le RGPD qui a permis et qui est un des textes de loi de protection des données personnelles qui a influencé les États-Unis puisque la Californie vient de voter le Consumer Privacy Act, California Consumer Privacy Act, qui s'est inspiré du RGPD. Donc il faut
s'inspirer des deux côtés. Voilà pourquoi vous continuez, que vous repartez, je crois, vers Boston
samedi
prochain pour enseigner. Un cours d'algorithmique au MIT. Pour en savoir plus, de toute façon, je renvoie tous nos amis auditeurs et auditrices sur votre essai aux religions de l'autre côté de la machine, pour ne plus se laisser bêtement calculer. C'est paru aux éditions de l'Observatoire et le sous-titre, c'est le voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Merci à vous.
Merci
d'être passé en direct.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous renvoyons, chers amis auditrices et auditeurs, sur nos podcasts disponibles à volonté. Et vous donnons rendez-vous demain avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro, pour nous interroger cette fois sur une autre cohabitation à inventer, réinventer aujourd'hui entre tous les vivants sur Terre. Autour de la question, comment nous inspirer des animaux et des végétaux, piste de réponse bio-inspirée à retrouver demain. Merci pour votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.